Loz Actuali.
Loz Actuali.
Revue de presse.
Hashtag
portrait chinois.
Et bien sûr,
l'invité du jour.
C'est tout de suite dans Loz Actuali.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce numéro 2 de la saison 2 de Loz Actuali. Bonjour Caroline.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Eric.
Bonjour, bonjour.
Et nous accueillons aujourd'hui deux invités, même trois, avec une qui sera plutôt derrière à faire des images, puisqu'il va être question d'images aujourd'hui. Donc nos invités, Jean-Pierre Montiel et Maurice Subervi. Et puis donc Yo Vicente qui est derrière et qui fera quelques peut-être bruits de clac-clac pendant cette émission. Évidemment, aujourd'hui, nous allons avoir quelques chroniques. Eric, tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais essayer de rester dans le thème de l'image avec un phénomène de société un peu.
Et toi, Caroline ?
Alors moi, je vais vous parler des 5 anneaux.
Ah ! Les 5 anneaux sur lesquels Eric reviendra pour sa revue de presse.
Oui, on verra à ce moment-là.
Ah, ben voilà. C'est en tous les cas, hashtag...
Hashtag 2024.
Caroline, hashtag...
Hashtag droit de suite.
Et pour moi, ce sera un hashtag radio. Voilà, donc ça sera pour la revue de presse à la fin de l'émission. Mais nos invités, ils vont nous parler de photobrac et c'est juste après ça.
Loz Actuali.
Bien, Jean-Pierre Montiel et Maurice Subervi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Dites-nous déjà un petit peu qui vous êtes avant qu'on parle un peu de photobrac et qu'on fasse le détail de tout ça. Qui êtes-vous justement qui organise ce festival photobrac, voilà, je vais y arriver. Voilà, comment vous vous placez là-dedans ?
Alors, je commence. Moi, je suis le président, n'est-ce pas ? Président de l'association photobrac. Je suis un ancien, entre guillemets, journaliste, reporter sportif. J'ai été pendant plus de 35 ans photographe de sport extrême. Et j'ai travaillé pour des magazines spécialisés dans la planche à voile, le surf, tout ce qui est VTT, moto. J'ai travaillé plus de 10 ans aux éditions La Rivière, à Moto Revue, Moto Verte. Après, j'ai été orienté sur Bicross Magazine. Ensuite, je suis parti sur le skateboard, surf, planche, tout ce qui découle de la planche. Et puis après, je me suis lancé sur les volcans pour suivre des sportifs, en fait, qui tentaient des records de vitesse, que ce soit en moto, en VTT, voilà. Et puis j'ai fini par des catalogues, évidemment, de vêtements dans le sport, toujours dans les sports de glisse. J'ai travaillé pour Oxbow, j'ai travaillé pour Quicksilver, pour pas mal de marques comme ça. Pardon.
Est-ce qu'il faut pratiquer ou avoir pratiqué pour faire des photos de sport extrême ?
Non. Moi, j'étais sportif quand même, parce que disons que pour faire des photos de planche à voile, on va souvent dans l'eau. Et il faut savoir nager déjà, et puis c'est pas évident, mais après...
Il faut avoir un appareil photo waterproof.
Voilà, exactement, ouais. Un, même deux, parce que moi, au moment où je travaillais, disons, où je faisais les photos dans l'eau, c'était de l'argentique, donc c'était des 36 poses, donc on essayait de partir au moins avec deux appareils, parce que quand il y a 500 mètres du bord dans les vagues, c'est un peu compliqué chaque fois de revenir, changer le film, repartir, enfin bon, voilà. Et donc voilà quoi, c'était un peu du sport. Donc automatiquement, tu es obligé d'être sportif. Là, j'ai un peu changé de look depuis quelques années, depuis que je me suis arrêté, ça c'est sûr.
Ça c'est l'effet volcan peut-être.
Certainement ça, ou l'effet apéro peut-être aussi. Mais disons que voilà quoi, et ça a duré un peu plus de 30 ans. Et donc voilà, je me suis un jour, en me baladant sur l'Aubrac, je me suis retrouvé dans une chambre d'hôte à Nasbinal. La personne qui me recevait m'a posé la question, m'a dit « Écoute, nous, on a créé un festival photo qui s'appelle Photobrac en 2003 Et elle me dit, mais nous, on n'y comprend rien en photo. Tu ne voudrais pas t'en occuper. Voilà. Donc, ça a démarré là-dessus. Et de m'en occuper, je m'en suis un peu occupé au début. Je suis parti de 3 expos en 2012. Et là, on en a 55. Voilà.
Voilà. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'entre-temps, Jean-Pierre est passé par le Hof de Arles.
Oui.
Ce qui est une sacrée référence dans le monde de la photographie quand même. Alors, je vous recommande d'aller voir son site internet parce que vous y trouverez ses images de sport extrême. Et je vous recommande de venir à au moins une des soirées de Photobraque et d'essayer de vous trouver, alors soit à la table, je ne sais pas si cette année ce sera des repas ou des buffets.
Non, oui, on, cette
voilà,
année, on,
plutôt buffet. Buffet ouais, ouais. Mais alors, d'essayer de vous trouver pas trop loin de Jean-Pierre quand il a bu un ou deux canons, parce qu'après, les anecdotes sur cette vie de baroudeur et de journaliste sportif sont croustillantes et super sympas.
Oui. non, il y a des traces, oui, il en reste un peu, ouais.
Et donc vous, Maurice Subervie,
alors moi,
qui êtes-vous ?
Beaucoup plus calme, moi je suis...
Et plus proche de nous finalement. Hein.
si, ouais, je suis né à Rodez, j'ai une famille d'imprimeurs, j'ai fait une école à Paris qui s'appelle l'école Estienne, Arts et Métiers du Livre, où j'ai découvert la photographie. Mais moi j'ai découvert la photographie de paysage, et donc je me suis... Après avoir travaillé un certain temps avec mon père, conflit de génération, donc je me suis lancé dans la photographie. Et je suis parti en sachant que j'aurais beaucoup de mal à vivre de mon métier en Aveyron. J'ai un beau matin eu l'idée de partir créer une société d'édition de cartes postales en Grèce. Et donc je me suis mis à faire des cartes postales d'un style... n'existait pas, avec des photos, avec des cadrages, alors déjà des choix très photographiques, avec des cadrages, des couleurs, peu de choses assez minimalistes. Voilà, c'était un peu un pari, parce que en me baladant en Grèce en tant que touriste, j'avais été étonné de ne pas voir de cartes postales qui reflètent vraiment ce qu'on voit quand on se balade dans ce pays.
Plutôt les paysages, les monuments ?
Alors, les paysages, les villages, la vie des gens, l'architecture, les couleurs, parce qu'en Grèce, les maisons sont blanches et bleues. À l'époque, tous les gens dans les villages travaillaient avec les ânes et les mules. Donc, il y avait une vie très forte. Voilà, donc c'était d'essayer, à travers les cartes postales, de retrouver cette ambiance. Voilà. Et donc...
Qu'est-ce qui vous ramène sur l'Aubrac et dans l'organisation de Photobraque ?
Alors, voilà, c'est une belle rencontre avec Jean-Pierre. Donc, à un moment donné, j'ai travaillé comme photographe accompagnateur pour l'agence Aguila, qui est une agence de voyage photo. Et donc, j'accompagnais des groupes de photographes sur l'Aubrac. Et Sylvie de l'Office de tourisme de Nazminals m'a appelé un jour, elle devait connaître mon nom et mon travail, en me proposant de rencontrer Jean-Pierre pour le festival. Et donc, j'ai exposé...
Oui, la première année, il a...
La deuxième année, moi, je dirais. Hein.
Oui, deuxième année, ouais. Ouais. Ça devait être 2013 ou 2014,
ouais.
Voilà.
Et
Et tout le pendant cette exposition, je ne voyais que des gens qui étaient complètement enthousiasmés par ce festival, par les lieux d'expo, par l'ambiance, par la convivialité, les gens qui se prenaient pas la tête. Et tout le monde me disait c'est absolument génial. Et le dernier jour du festival, Jean-Pierre me dit moi c'est trop, j'arrête tout et tout. Mais je lui dis mais t'es complètement fou, c'est fabuleux, j'ai jamais vu un enthousiasme pareil. Et je lui dis, si tu veux, je veux bien te donner un coup de main à la hauteur de mes moyens. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est un peu retrouvés ensemble pour essayer de faire avancer le festival.
Et alors donc, c'est une association qui porte ce festival, voilà. comment ça se passe ?
C'est une association qui organise, si vous voulez, tout le côté artistique et la gestion du festival, qui est portée par la communauté de communes, si vous voulez, qui s'occupe de nous fournir tous les lieux qu'on a choisis, et qui s'occupe des hébergements et tout ça, parce que nous, on n'a aucun rapport avec les hébergements. Mais on a créé une association depuis l'année dernière, d'ailleurs, depuis cette année même, et pour justement être un peu plus indépendant du côté politique de la communauté de communes, qui n'est plus la communauté de communes, maintenant qui est passée en communauté d'agglomération.
Communauté de communes, mais plus grande.
Ouais, voilà, c'est ça. Alors bon, le problème, il est là. Il est que il y a des villes, en fait, si vous voulez, qui appartiennent à cette communauté, qui sont distantes d'une quarantaine de kilomètres, qui ne comprennent pas du tout pourquoi Photobraque, ça s'appelle Photobraque, et c'est sur l'Aubrac, et puis et qui ne veulent pas, disons entre guillemets, participer à la vie de ce festival.
Très bien. Alors, on va découvrir un petit peu plus du festival tout de suite après. On va faire d'abord une première coupure avec une chronique d'Éric, et ensuite une coupure musicale. Et on se retrouvera un petit peu plus tard pour parler vraiment du festival et de tous ces rendez-vous qui sont au programme pour ces quelques jours. Ça commence, on le rappelle, ce jeudi 21 septembre, et voilà, ça dure jusqu'au 24 septembre, donc tout sur l'Aubrac, autour de Nasbinal, Sainte-Urcise, Aubrac, Marchastel et Prince-Tuéjol. Voilà, on a découvert nos deux invités, rendez-vous tout de suite pour découvrir un petit peu plus ce projet.
L'Oz Actuali.
Et vient donc la chronique d'Éric. Éric, oui. De quoi vas-tu donc nous parler ?
Donc moi, je vais vous parler d'un sujet de société assez grave, puisque pour les derniers chiffres que j'ai trouvés, ce phénomène provoquerait plus de morts dans le monde que le nombre d'attaques de requins. Alors, ce phénomène assez narcissique, on l'appelle les selfies. Alors, c'est une déclinaison de l'expression anglaise « self » désignant « soi ». Alors, il désigne une photographie que l'on prend soi-même, généralement avec un smartphone, pour ensuite pouvoir la partager sur les réseaux sociaux. Alors, je dois bien avouer que pour moi, le selfie est à la photographie ce que Closer est au journalisme ou Hanouna à l'intelligence de l'esprit. Mais il s'agit pourtant d'un vrai phénomène de société, et parfois je l'utilise moi-même pour communiquer également. Bon, déjà, faire passer le selfie comme une nouveauté est une erreur. L'autoportrait ne date pas du dernier smartphone venu, puisque des artistes peintres comme Van Gogh et Gustave Courbet s'y sont essayés bien avant nous. Aussi, au début du XXe siècle, avec la création des premiers appareils photo, c'était quelle marque, vous savez ?
Les
Nikon ? Non. Le Nikon, non ?
Oui, c'était le Nikon. Oui. C'est Nikon qui avait commencé. Donc la pratique de l'autoporté s'était bien simplifiée. Après, il est vrai que c'est surtout vers la fin des années 2000, avec des réseaux sociaux comme Facebook, que l'autoportrait commence à être utilisé comme photo de profil. Et en 2010, donc l'application Instagram, qui permet la publication de photos sur les réseaux sociaux, elle fait son apparition et devient l'épicentre du phénomène. Mais l'évolution des technologies ne suffit pas à faire du selfie le phénomène qu'il est devenu aujourd'hui. Il fallait pour ça que les leaders de ce monde s'y mettent aussi. Alors aussi, tout le monde s'y est mis, comme Barack Obama aux côtés de la première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt, je me trompe peut-être dans la prononciation, et de David Cameron lors de la cérémonie d'hommage rendue à Nelson Mandela. Il y a même le pape François qui se laisse happer par la nouvelle tendance en souriant avec joie et bonne humeur à l'intérieur d'une église. Alors, le phénomène n'a pas touché seulement le monde terrestre. Il se propage également dans l'espace, comme en témoigne l'astronaute Luca Parmito le 11 juillet 2013 depuis la Station spatiale internationale. Le selfie est ainsi rapidement devenu un phénomène de société. Des photos de selfie ont fait le tour de la planète, comme celui d'un singe, qui s'est emparé de l'appareil photo d'un photographe avant de faire un selfie. Donc, une cour de justice a même rendu un appel, un verdict, pour dire que le singe ne pouvait avoir la propriété intellectuelle de la photo, mais une partie des revenus tirés des clichés ont servi à financer son habitat naturel. Il y a aussi eu le selfie le plus partagé le 12 mars 2014, lors de la cérémonie des Oscars avec Hélène, animatrice américaine, réunissant toute la crème de Hollywood. Alors que cette photo partagée 3 millions de fois semblait avoir été prise d'un geste spontané, désintéressé, Hollywood, hein, on a appris par la suite qu'il s'agissait en fait d'une opération marketing orchestrée par une grande marque de smartphones. Aussi, les fabricants ont rivalisé d'imagination pour créer l'accessoire dernier cri qui comblera les masses et sera source de richesse. Par exemple, si vous trouvez que votre bras est trop court pour cadrer une photo, vous pouvez désormais opter pour la canne à selfie. Si, pareil, ça existe, c'est télescopique en plus. C'est une longue perche qui permet de prendre du recul. Alors, ce nouveau gadget dédié aux touristes, dernière génération, atteint des sommets de popularité en Asie. Il a envahi les musées du monde entier. Mais c'est de plus en plus décrié. Justement, on parlait de la Grèce, et j'y étais la semaine dernière. Et à Épidaure, dans un grand théâtre antique maintenant, toutes ces cannes, elles sont, on n'a plus le droit de les utiliser. On n'a plus le droit de faire de selfies. Pareil dans les musées, parce qu'il y a eu un nombre incalculable d'œuvres qui ont été détruites par les gens qui essayaient de faire des selfies sans voir ce qui se passait derrière eux. Le plus important de se prendre en photo devant la Joconde que de prendre en photo la Joconde, bien sûr.
Ou de la regarder tout simplement.
Ou de la regarder tout simplement. Maintenant, même si on ne peut plus utiliser les cannes, il existe aussi des dronises. Alors, c'est des petits drones qui peuvent amener notre smartphone pour être pris en photo. Alors, il y a même une agence de pub, par contre, qui s'était emparée du phénomène et avait utilisé des photos de célébrités pour faire croire à des selfies. Donc, ils avaient réutilisé des anciennes photos. Par exemple, il y avait Churchill ou Jackie Kennedy. Donc, après, ces pseudo-selfies historiques, ils devraient inévitablement surgir. Donc, les selfies antiques, en attendant les selfies préhistoriques, donc de mammouths en pleine crise de narcissisme aigu. Ou les selfies d'Adam et Ève à l'attention des créationnistes. Non, cela vous semble improbable ? Sachez qu'il existe une application Android dénommée Baby Selfie, permettant aux nourrissons donc de se prendre en photo avec le téléphone numérique de leurs parents. Comme ça, il n'y aura plus qu'à les envoyer sur les réseaux sociaux.
C'est merveilleux. Voilà.
Alors, le phénomène a pris tellement d'ampleur qu'il existe donc des livres, Je selfie donc je suis, ou même des spécialistes comme André Günthert, qui est tout de même maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales, où il occupe la chaire d'histoire visuelle et qui nous dit donc, le selfie, cet autoportrait au smartphone, est parfois regardé avec mépris du haut du balcon de la société. Destiné à être partagé souvent afin de faire rire et réagir, il n'a pourtant rien de futile. Au contraire, c'est une révolution comme on n'a pas connu depuis des siècles. Pas seulement iconographique, mais bien sociologique, social, voire politique. Donc le selfie, brave Jean, est donc en réalité, je recite, hein, une révolution comme on ne l'a pas connue depuis des siècles. Alors oubliez Internet, cette révolution un peu pourrie, l'électricité, ce truc surfait, ou même l'invention de la photographie. Donc le selfie a secoué le monde bien plus que tout cela. Voilà. Pour terminer, même pour Fabrice Lucchini, c'est encore plus important. Mais pour Fabrice Lucchini, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que lui, quand on lui propose de se faire un selfie, il pense forcément à une position érotique.
Mm-hmm. Alors, le regard des photographes sur les selfies
C'est une catastrophe. Mais bon, bah c'est l'autosatisfaction. Mais voilà, ce qu'on me disait, c'est qu'on se regarde soi.
Avant de
regarder ce qu'il y a, voilà. Voir les gens marcher dans la rue avec une canne à selfie en train de se filmer, non mais c'est aberrant. Bon après, peut-être que c'est aussi, nous on n'est plus très jeunes, hein, c'est peut-être une question de génération, mais enfin moi personnellement, franchement, je trouve ça effarant.
Déjà l'arrivée de cet appareil photo, du coup tout le monde a en main en permanence, ça vous évoque quoi ?
Ça a un bon côté, parce que du coup, ça a popularisé la photographie. En même temps, faire une photo avec un smartphone, c'est très éloigné de la photographie. La technique n'entre plus en ligne de compte.
Bien qu'il y ait, moi, on m'a proposé une expo faite avec un smartphone.
C'est la grande mode.
C'est pas du tout mon truc. De toute façon, il faut savoir qu'un smartphone, si vous voulez, bon, malgré la qualité, on annonce une qualité qui est exceptionnelle, ça fait du 20 millions de pixels maintenant ou des trucs comme ça. En fait, le problème, c'est un problème de couche. Je veux dire, la photo peut faire 20 millions de pixels, mais ce n'est pas du tout la même qualité qu'il peut y avoir avec un appareil photo. Donc, de toute façon, c'est sûr que ça fait des trucs, c'est génial. Je veux dire, tu te retrouves dans un endroit pas possible, tu as ton smartphone, tu es perdu, tu te retrouves, tu fais une photo souvenir du coin. Je veux dire,
admettre que ça a des côtés.
C'est absolument fabuleux. Il y a un truc qui est assez amusant. Moi, j'étais, c'est l'année dernière, au mois d'octobre, j'étais en Californie, au Grand Canyon, ils interdisent les gens pour faire des selfies parce que il y en a qui sont tombés. Parce qu'il faut voir. Bon, le Grand Canyon, il y a un kilomètre de. Et bien, les gens, ils sont tombés avec le. Ah ouais, en se photographiant.
Plus de morts que les attaques de requins dans le monde. Ouais.
C'est complètement fou, quoi.
Le pire, c'est en Inde. Les gens, ils se prennent en photo devant un train qui arrive.
Et l'autoportrait photo, vous avez goûté à ça ou
non,
pas ?
Non, pas du tout. Je suis pas. Ouais, non, non, on n'est pas une génération où on aime trop se mettre en avant. On a monté notre travail, je pense. Et bon, maintenant on montre ce qu'on fait. Mais moi, j'estime que bon, je laisse la place à tous les jeunes et tout. Bon, nous maintenant, on a vécu entre guillemets. On n'est pas encore à ce point-là.
Gâteux.
Oui, mais disons que bon, on a prouvé ce qu'on savait faire. Quoi. Et là, bon, on a repris ce challenge sur le festival, justement pour pouvoir promouvoir aussi tout un tas de jeunes qui sont très bons et qui souvent n'ont pas les moyens de se payer une expo. Donc nous, on se permet, disons, de faire des tirages qui nous coûtent peut-être pas très très cher, qui n'ont pas la qualité, mais bon, ça permet à des jeunes de montrer leur travail, quoi. C'est surtout ça l'intérêt. Et puis voilà. Bon, maintenant, le téléphone, on n'est pas encore prêt pour recevoir ce genre d'expo, quoi.
Bien, on aura l'occasion de parler justement de ce que vous présentez dans quelques instants, juste après une coupure musicale. Et alors maintenant, c'est l'habitude dans cette émission. Les différentes coupures musicales sont le choix de nos invités. Et pour la première, c'est Jean-Pierre Montiel qui s'y colle. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter ?
Ben, moi, j'aimerais bien écouter Led Zepp, parce que bon, c'est ma, entre guillemets, ma génération, ouais, peut-être. Et puis, je crois que le titre, c'est Stairway to the Heaven.
Eh bien, on écoute.
comfort in the long run. And there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder
Loz Actuali.
On se retrouve dans Loz Actuali sur 48FM avec Jean-Pierre Montiel et Maurice Subervi de Photobrac. Photobrac, donc, c'est un festival qui commence jeudi tout au long du week-end jusqu'au 24 septembre. Alors, dites-nous un petit peu le principe, le concept général de ce festival. Pourquoi de la photo sur l'Aubrac? Voilà. Comment c'est né? Quelle est un peu l'idée de base du festival?
Ben en fait, le festival, si vous voulez, est antérieur à notre présence, en fait, parce qu'il a été créé en 2003 par un photographe et une association locale à Nasbinal, photographe qui s'appelle Renaud d'Angreville, qui a été, je crois qu'il était assistant. Ouais. De
le film, c'était film, produit par Jacques Perrin sur les oiseaux migrateurs.
Ouais.
Oiseaux migrateurs, ouais.
Ouais. Voilà. Et donc c'est un fanatique d'image qui vit, de toute façon il vit à Nasbinal et il passe son temps complètement caché,
c'est un photographe animalier. Ouais,
voilà, c'est un photographe animalier. Et il passe les trois quarts de ses journées, mais dans des refus, il se fait des cabanes et tout. C'est un chasseur d'images. Et ce gars-là donc a créé ce festival Mais bon, il est plus, disons, côté prise de vue que côté organisation. Voilà. Et puis, donc, ça s'est un peu essoufflé. Et moi, en 2012, j'ai repris le flambeau avec un peu l'expérience que j'avais des rencontres d'Arles, où j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. Je faisais les montages audiovisuels du forum photo. En fait, les rencontres d'Arles étaient divisées à cette époque-là, étaient divisées en deux parties. Il y avait le festival LIN, ce qu'on appelle LIN, c'est-à-dire bon, tous des gens très très connus, et il y avait le forum photo qui était plutôt reportage, ce qui correspondait plus à ma sensibilité au niveau de l'image. Moi, je viens du reportage, donc j'ai besoin. Le reportage, c'est en photo, si vous voulez, s'il faut qu'il y ait un fil conducteur. En fait, c'est une vie de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, et donc il y a un conducteur. Et si vous voulez, moi, je suis rentré là-dedans, vu que au tout début, j'étais reporter et je travaillais pour une agence de reportage sur Paris qui était SIPA Presse. Je faisais un peu de photos de sport, mais j'étais, disons, beaucoup plus actualité. Et donc, mon mentor, si vous voulez, celui de la personne qui m'a pris la photo, qui était un ancien grand reporter de Paris Match et qui était un grand ami à Lucien Clergue. Et quand Lucien Clergue a créé les rencontres internationales de la photo à Arles, Jean-Louis Chavassu a créé le Festival Off. Voilà. Et donc, si vous voulez, moi, je me suis retrouvé là au milieu, étant assez passionné d'images. Et disons que je me suis retrouvé propulsé du jour au lendemain à la conception des d'audiovisuel, parce qu'à cette époque-là, évidemment, c'était des diaporamas, donc il fallait sonoriser. On faisait la sonorisation avec des bandes magnétiques, on avait les quatre pistes, mais tout par collage. Donc, il n'était pas question de mélanger, de mixer et compagnie. Donc, c'était tout par collage. Et voilà, avec qui était donc sur deux pistes le son et sur deux pistes les tops qui déclenchaient les diaporamas. Et voilà, ça, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Et puis là, ça m'a permis de rencontrer des types comme Mondino, comme Jean-Baptiste Mondino. J'ai fait des montages pour lui. J'avais Reza. Reza qui est un... J'ai un peu la voix chevrotante parce que c'est un personnage, si vous voulez. C'est un reporter de guerre. C'est un reporter de guerre que j'ai connu donc il y a plus de 30 ans. Et ce gars-là était parti avec les Moudjahidines à l'époque. C'était la guerre entre les Russes et les Afghans. Et il était parti donc en Afghanistan. Il s'est embarqué avec les Moudjahidines. Et il était parti pour 3 mois pour faire un reportage. Et au bout de 6 mois, toujours pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles. Et en fait, 6 mois après, il est arrivé à Arles avec une centaine de films qu'on a développés. Vous imaginez le nombre de photos de 36 poses. Hein, à cette époque-là, c'était 36 poses. Et donc, voilà, il a fallu que je fasse une sélection là-dedans, que je sorte 100 photos. Je peux vous dire que j'ai passé une semaine comme un fou. Et donc, on a fait ce montage. On a fait un truc très simple. Et il découvrait ses photos, en fait, au moment où le public les découvrait aussi. Et ça a été un truc de fou. Et donc, ce reportage, en fait, si vous voulez, a pris le World Press. C'est la plus haute distinction au monde dans l'image. Voilà, donc, et puis, après, j'en ai connu plein d'autres. J'ai bossé avec Nick Knight. Nick Knight, c'est celui qui avait fait la campagne. C'était des images, il y a une quinzaine d'années. Kouros, c'était des images très graphiques. Ça a été pour moi un bonheur parce que, en fait, en tant que photographe, en plus, de côtoyer des gens comme ça qui sont d'une humilité assez exceptionnelle. Et de voir leurs images, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc, voilà, je reviens toujours à mon photobraque. Et de là, si vous voulez, bon, je me suis retrouvé donc, à la tête de ce festival. Et j'ai fait moi, mon idée comme je le sentais, quoi. Donc, j'avais envie d'avoir des belles images, mais j'avais envie aussi d'avoir les gens du coin qui n'étaient pas du tout passionné ni observateur d'une image. Pour eux, une photo, bon, c'était la photo de famille du gamin pour son anniversaire et point. Et donc, l'idée, ça a été d'essayer de faire rentrer ces images chez les agriculteurs. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, en fait, qui travaillait à Natura 2000, qui s'appelle Laure Andrieux, et qui m'a demandé de faire un reportage sur la vie des agriculteurs l'hiver, dans les étables. Donc là, j'ai passé tout un hiver à sillonner un peu toutes les étables, rencontrer des gens. Et bon, évidemment, moi, je ne sais pas si ça s'est remarqué, mais j'ai beaucoup de mal à parler. Et, et en fait, voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé vraiment au sein de familles. Et donc, j'ai fait mon reportage et j'ai fait un diaporama, ce que je savais faire. Et on a fait une expo de 70 photos sur la vie des agris en hiver, sur le plateau de l'Aubrac. Et donc, voilà. Quoi. Porte s'est ouverte.
Parce que les gens se sont sentis...
mis en avant. Parce qu'en général, voilà.
Ouais, voilà. Concernés. Et même, on les a impliqués, quoi.
Et puis mis en avant. Parce que, bon, l'éleveur, c'était le bouseux dont on parlait jamais, quoi. Et là, on a fait un truc c'était complètement l'inverse. Et ça leur a vachement plu. Et donc, en fait, si vous voulez, ben, on est parti de ce truc-là. Moi, dans mon idée, c'était vraiment d'avoir des étables, d'avoir des lieux un peu exceptionnels pour pouvoir présenter des images. Moi, les barnums, ça ne me plaît pas. Les salles polyvalentes, ça ne me plaît pas. Moi, je voulais du truc authentique. Voilà. Et donc, ben, ça a commencé. On a eu une ou deux étables. On avait une douzaine d'expos. Après, on en a mis à l'extérieur. On a fait tirer des bâches. On en a mis dans la forêt. On en a mis un peu de partout. Sur les murs. Dans le village, il y en a de partout sur les murs. Et puis, de fil en aiguille, les gens se sont intéressés. Ont commencé à approcher les photographes qui, au tout début, n'osaient même pas regarder leurs images parce qu'ils se disaient « mais c'est pas pour moi ». Et en fait, petit à petit, tous ces agriculteurs ont adhéré à ce projet. Et maintenant, il y a un truc qui est absolument génial, c'est que sur Facebook, je vois des photos, le gars, il sort de chez lui, il y a un coucher de soleil, il prend son smartphone, il fait une photo, il la met sur Facebook. Je veux dire un agriculteur, quoi. Alors que là... Et c'est amusant, parce que les gens regardent la lumière, regardent leur paysage, regardent leur pays, et se rendent compte dans quel endroit ils vivent. Et ça, c'est fabuleux. Voilà.
Voilà, pour l'esprit de ce festival. Alors, justement...
Alors, moi, je peux dire, quand même, je peux rajouter que, en plus, moi, je l'ai découvert quand Jean-Pierre a repris, avec Laure Andrieux, justement, il y avait cette volonté, parce que moi, j'ai été invitée pour parler de ce festival en tant que journaliste. Il y avait la volonté de promouvoir le festival, mais aussi de promouvoir ce pays. Il y a vraiment eu ce lien tout le temps. Et les premières visites de presse que vous nous avez offertes, c'était rencontrer les photographes, c'était parler des photos, mais c'était aussi rencontrer ces gens du pays, les agriculteurs, les commerçants, créer un vrai échange. Ça donnait des journées assez formidables.
Oui, et c'est réussi.
C'est très réussi. Ouais, ouais. Et cet esprit perdure aujourd'hui. Et, c'est vraiment
et même Reza, par exemple, il est venu 2 ans de suite, il a été sidéré par l'accueil qu'il a reçu, quoi. La chaleur des gens et puis le contact qu'il a eu, quoi. Les gens viennent à sa rencontre pour lui parler et tout. Il dit, moi, j'ai fait des conférences à Washington devant 3000 personnes, j'ai jamais eu ce retour comme ça directement. Voilà, quoi. C'est ça qui est génial, quoi.
Et puis finalement, en tant que grand public, on n'a pas si souvent l'occasion de rentrer dans les étables. C'est des lieux courants en Lozère, mais on n'a pas si souvent l'occasion d'y mettre les pieds. Et c'est assez fabuleux, ça.
En plus, on y met des expos qui sortent vraiment de l'ordinaire. Je veux dire, ce sont des trucs. Là, cette année, on en a une. On a 100 mètres linéaires d'images. C'est Wild Touch. Wild Touch, c'est la fondation qu'a créée Luc Jacquet. Ils sont en train de répertorier tous les endroits sauvages dans le monde. Donc, vous imaginez le travail que c'est. Et en fait, là, on a récupéré une expo. Donc, on a une projection du film Antarctica. Et on a récupéré l'expo de Laurent Balesta et Vincent Munier, qui l'un était sur la banquise et l'autre sous la banquise. Et donc là, on a 100 mètres linéaires d'images qui vont être présentées. Et en plus, donc dans cette fameuse et toujours étable, et dans tout ce qu'on appelle, bon, nous maintenant on connaît les termes techniques, parce qu'on vit avec les agriculteurs, dans tous les parcs à veaux, ce sont des espaces où les veaux sont séparés de leur mère pendant l'hiver. Donc on va les aménager en petits salons avec des balles de paille et on a des écrans de 80 pouces et là on va projeter en continu tout le making-of, tous les petits. On a une trentaine de films de 3-4 minutes qui montrent la manière de travailler sous l'eau, sur la banquise, avec les conditions météo et tout, en plus de cette expo, quoi, qui vont vraiment montrer l'expo.
Alors, cette expo, c'est à la Ferme des Saliens,
exact.
Ça, hein, Route des Lacs. Mmh. Et la soirée avec la projection du film Antarctica, samedi 23 à 18h.
Ouais.
Voilà,
à la rosée du matin.
À la rosée du matin, effectivement, je ne l'avais pas dit. Alors justement, dites-nous un petit peu d'autres propositions parmi ces expositions, parmi ces temps forts aussi du programme, plus d'événements, de projections. Dites-nous quand est-ce qu'il faut qu'en tant que Mandois, on monte sur l'Aubrac pour venir voir toutes ces expos.
Le jeudi soir, on a un programme qui est assez sympa. On a une photographe qui est, je crois qu'elle est naturaliste, hydrologue, biologiste, enfin bon, et qui fait des photos sous l'eau aussi, mais dans les rivières. Et en fait, je l'avais invitée au mois de mai. Elle est venue passer quelques jours ici. Donc, je lui avais demandé de nous montrer sa vision de l'Aubrac. Donc, elle a fait la vision en l'air. Elle a loué
un
ULM pour faire des photos aériennes. Ensuite, elle est allée sous l'eau. Elle est allée dans les rivières, donc le Bess, je ne me rappelle plus, un peu toutes les rivières. Et elle nous présente donc sa vision de l'Aubrac en l'air, sous l'eau et classique, quoi. On a ça qui est vraiment très sympa. En plus, elle fait une petite présentation d'un travail qu'elle a fait à La Réunion sur un petit poisson qui s'appelle la Bibi. Je ne me rappelle plus le nom, d'ailleurs. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? On a un truc qui est absolument extraordinaire, en plus, cette année. Bon, on a des grands noms. Il faut savoir qu'Anne Sylvester vient nous présenter une expo qu'il a fait. Donc là, c'est pareil. C'est un photographe pas loin des 80, oui. 80 ans. C'est un gars qui fait de l'immersion, en fait, si vous voulez. Il part dans une tribu africaine. Il va y rester 6-8 mois pour disparaître, en fait, si vous voulez, dans cette tribu. Il est complètement adopté et il fait ses photos. Et là, il nous amène une expo. C'est sur le peuple Bench. En fait, le peuple Bench, ce sont des gens qui décorent toute leur maison et tout d'une manière, mais c'est assez exceptionnel. Et donc ça va être présenté, oui, à Aubrac. C'est en plus dans un lieu absolument extraordinaire, à l'annexe d'Aubrac, qui est une chambre d'hôtes, qui nous ont vraiment accueillis, vraiment très sympa. Et donc cette expo sera là. Ensuite, on a un truc aussi. Bon, enfin, on n'a que des trucs extraordinaires.
Mais, alors, on va dire Anne-Cécile Monnier, donc les paysages aquatiques.
Voilà.
C'est à la cascade de...
du Déroc. Oui, sur le chemin du Déroc, voilà. Et la cascade.
Et avec la soirée jeudi soir à 19h30. Ouais. Projection plus conférence reflet d'eau douce,
ouais.
Toujours à la rosée du matin.
Ouais, toujours à la rosée du matin. Et donc Anne Sylvester est à Aubrac et on a une expo d'un photographe qui est du sud, qui est un peu d'à côté de chez moi, qui est d'Aix et qui travaille pour la Compagnie nationale du Rhône, la CNR, qui présente.
Qui gère les canaux et le,
voilà,
Rhône, c'est ça. Hein.
Voilà, hein, tout ce qui est. En plus, production d'électricité de manière plus ou moins verte, enfin plus ou moins verte, disons, bon, par l'eau et les éoliennes et le panneau solaire. Et donc, lui, il nous présente une expo, c'est le Rhône, en fait, de la source à l'embouchure. Et cette expo, elle est présentée sur 90 balles de paille. Les images les font entre 5,50 m sur 3,90 m. Voilà, 90 balles de paille de 300 kilos qui sont mises en place. Alors, il y a des totems, il y a
toute une scénographie.
Le long du Bess, qui va être à la ferme de Bouquincan, sur la route de Rieutor d'Aubrac. Voilà, après...
Pour les chaussures de randonnée pour...
Non, mais on a justement une... on va avoir des vélos électriques qui vont tourner pour faire les... Parce qu'il était prévu... De faire des navettes, mais on ne voulait pas faire des navettes classiques, évidemment, vu comme nous, on n'est pas classiques. On avait décidé de faire ça avec
des bétaillères,
avec des balles de paille dedans. Mais bon, pour des questions d'assurance, c'est un peu compliqué. Alors bon, cette année, ça sera que le vélo électrique. Voilà.
Un petit mot peut-être sur le déroulé des journées, qui est un peu tous les jours le même. Ouverture de la journée à 10h. Oui. Un casse-croûte à midi, parce qu'il,
ouais,
y a cette,
oui,
part importante. Hein,
ah ouais.
Voilà,
hein. Obligatoire. La photo, pour nous, c'est du partage. Et le partage, C'est bien de montrer des images, c'est bien d'en discuter, mais c'est aussi bien de boire un bon canon avec un bon morceau de fromage et un peu de charcuterie. Donc, moi, j'ai invité les photographes qui viennent sur l'Aubrac à amener quelque chose de chez eux. Alors, un morceau de un fromage, une bouteille de vin et tout, on met tout en commun. Et le public est invité. Voilà, donc on fait ça le midi, on fait ça le soir après les projections. On boit un verre de vin ensemble, tout en restant évidemment sérieux et ne pas dépasser les limites autorisées. Et donc voilà, tout se passe autour de cette convivialité et de ce partage.
Alors, il y a aussi un concours photo.
Exact.
Alors, un petit peu plus.
Le concours photo, cette année, comme l'année dernière, est organisé par le magazine Terre d'Aubrac, qui est plutôt dans l'Aveyron. C'est eux qui gèrent toutes les photos. En fait, cette année, ils ont reçu, je crois, ils sont à plus de 120 ou 100 ou 150 participants. Ils ont reçu plus de 300 et quelques photos. Et voilà, donc là, ce concours photo. En fait, cette année, il y a deux concours. Il y a celui-ci et il y a le concours aussi fait par les agriculteurs, alors sur les prairies fleuries. Il y a eu justement, c'est Natura 2000 qui a organisé ça au printemps, au moment des narcisses. Et donc, les agriculteurs ont été mis à contribution. Donc, ils ont fait leurs photos de leur propre champ. Et là, on va découvrir le résultat. Je crois que c'est jeudi.
C'est en ouverture. Hein,
oui, c'est en ouverture. C'est jeudi ouverture, ouais, à 17h, je crois.
Oui, c'est ça. Jeudi, voilà. 17h, la remise des prix, voilà. Du concours Natura 2000. Et le concours Terre d'Aubrac, c'est le vendredi, il me semble avoir vu.
Oui, il me semble, oui, vendredi. Il y a tellement de...
À 17h aussi.
Oui, exact. Ouais.
Voilà. Le samedi matin, donc, il y a une rando photo. Voilà, c'est ouvert à tout le monde.
Le vendredi soir, voilà. Le vendredi soir, il y a une, à partir de 16h, au coucher de soleil, il y a une première rando photo. Et le samedi matin, il y en a une au départ à 7h. D'ailleurs, il y a eu une petite erreur sur le programme parce qu'il y a eu une coquille. Bon, moi, je ne l'ai pas vue. Ils annoncent 10h alors que c'est 7h le départ de la rando photo. Et là, c'est avec deux photographes animaliers. Et en général, on a un guide naturaliste qui accompagne les photographes qui désirent. Mais bon, il y a vraiment des places limitées et à 20 personnes. Et donc, c'est que sur inscription.
Auprès de l'Office de tourisme, voilà, de Nasbinal.
Toujours. L'Office de tourisme de Nasbinal.
Et il faut avoir un niveau en photo ou...
Bah, il faut déjà avoir un bon appareil, disons, avec un zoom ou un téléobjectif pour pouvoir faire des images. Et puis, il faut, oui, quand même un petit niveau. Ce n'est pas avec un smartphone qu'on pourra le faire.
Un petit mot, peut-être, sur vos publications, puisque depuis 2 ans, le festival a son livre.
Voilà.
C'est important, en fait, ça vous aide au financement.
Exactement. Hein. Donc évidemment, bon, comme tout le monde le sait, pour une association, pour arriver à se financer, c'est un peu compliqué. Les pouvoirs publics n'ont vraiment plus les moyens de nous aider. Donc avec Maurice, on avait décidé de faire un catalogue en fait sur ce festival et qu'on vend. On vend 20 euros. C'est un catalogue de 100 pages. Donc, qui montre déjà le site dans lequel on évolue ce festival, donc l'Aubrac. Et on présente les plus belles, disons, ouais, ce qui s'est passé l'année dernière, l'année d'avant, et ce qui va se passer cette année. Donc, les plus belles expos, les meilleurs moments du festival. Et donc, voilà, ça, c'est pour nous aider à vivre, parce que si on n'a pas ça, ben, le festival s'arrêtera un jour, hein. Ça, c'est clair.
Donc, et c'est en vente sur place.
Voilà, c'est en vente sur place. Il y a quelques...
Quelques libraires, quelques même libraires. Ici, à Mende, Yenach, et certainement la librairie principale, là.
La lorgnette.
Voilà.
Ou Chaptal. Comme ça, pas faire de jaloux.
Ouais, c'est ça.
Ou peut-être les maisons de la presse aussi, voilà. Je sais pas.
Et enfin, puis, ouais. Là, il y en a, je pense qu'on va les mettre en vente un peu dans tous les lieux d'expo, l'office de tourisme, enfin, pas l'office de tourisme lui-même, parce qu'on est, sur ils nous prêtent leur cour, donc on sera sur la cour de l'office de tourisme, et puis de toute façon, puis sur le site de Photobrac, et voilà, quoi.
Alors, vous deux, vous exposez aussi quand on regarde le programme. Qu'est-ce que vous proposez?
Très modestement.
Qu'est-ce que vous proposez particulièrement pendant ce...
Ben, c'est notre vision de l'Aubrac, tout simplement aussi. on aime bien un peu montrer ce qu'on sait faire de temps en temps, parce que à force on oublie qu'on est du métier, qu'on est photographe. Et bon, toutes les années on met quelques photos ou on vient en appui pour certains photographes, si vous voulez, qui manquent un peu de mais on reste tout à fait anonyme. Enfin, on a mis le nom parce que
c'est très discret, ouais.
Voilà, mais ouais. On n'a pas trop envie de se mettre en avant. On a assez de boulot comme ça pour organiser ce festival.
Peut-être juste quelques chiffres. Donc, combien de photographes?
Alors cette année, on a 55 expos. Donc
55 donc lieux d'exposition. Voilà.
Non, pas 55 non. lieux d'exposition. En fait, dans les étables, on présente entre 3 et voilà, il y a 13 ou 14 lieux d'expo. On présente dans chaque étable une dizaine de photographes, en gros. On a des clubs photos qui viennent. Donc voilà, quoi. Mais c'est une grosse machine à mettre en route, parce qu'il faut arriver à gérer tous les photographes. Et puis les photographes sont un peu des enfants. Un peu comme tous les artistes, ils aiment bien être maternés. Et ça, c'est la partie la plus compliquée du festival, à arriver à gérer tout le monde. Parce que, bon, ils sont encore plus stressés que nous. Nous, maintenant, ça va, ça roule, on est rodés. Mais eux, ils sont énormément stressés de savoir qu'ils vont présenter leurs images. Pour certains, c'est même la première fois. Et donc, voilà, quoi. Alors, le stress, ça fait que... on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de trucs, on a beaucoup de mails, on a beaucoup de... pour un peu les rassurer, quoi. Mais bon, sinon, en général, après, une fois que tout est en place, que c'est lancé, bon, voilà, après... En plus, cette année, on a des lycées et des collèges qui montent pour voir les expos. Donc, nous, avec Maurice, on va se charger de leur faire un peu le tour des expos et pour leur expliquer un peu la démarche des photographes, en présence, en plus, des photographes qui seront là, parce que c'est un peu le jeu. Bon, certains ne seront pas là pendant tout le festival, mais en général, on essaie de les avoir avec nous pour qu'ils présentent leur travail.
Alors, on le rappelle, c'est du 21 au 24 septembre. Est-ce qu'on peut donner un lien Internet pour tous les gens qui voudraient retrouver tout le détail du programme
On le mettra sur le site nous-mêmes.
Hein, on le mettra, évidemment, mais on peut le dire.
Oui, il y a un site qui s'appelle Photobraque.
Photobraque.com.
Oui, photobraque.com. Et puis, il y a le Facebook Photobraque. Et Jean-Pierre Montiel, enfin, on en met de partout. Et là, sur le Facebook, pour dire, c'est qu'on a, en ce moment, je publie 3-4 photos de chaque photographe tous les jours. Et on a plus de 25 000 portées de publication par semaine, quoi. Donc, je pense qu'on va pas être seul sur le plateau ce week-end.
Ouais, une belle activité prévue pour ce week-end. On en reparle un tout petit peu tout à l'heure et on continue tout de suite après la virgule avec la chronique de Caroline.
Loz Actuali.
Caroline, c'est à toi.
Alors voilà, on est à la deuxième émission et déjà, je fais ma mauvaise élève. J'ai travaillé ce week-end, j'ai pas eu le temps de préparer, mais j'avais quand même envie de partager avec vous ma joie la semaine dernière de la fausse annonce, bien évidemment, vous allez me dire, mais tant pis, mais quand même, moi j'ai voulu jouer le jeu et j'ai croisé les doigts jusqu'au soir de la fausse annonce des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Alors j'entends déjà les grincheux me dire, voilà, c'est une gabegie financière, quel scandale, tout ça. Pour moi, les Jeux, c'est une belle fête. Et les savoir en France, alors qu'ils n'y étaient pas venus depuis un certain temps, c'est pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important. Voilà. Alors, tous les 4 ans, ces Jeux qui, quand même, nous font rêver... Les savoirs à Paris pour 2024 avec des espoirs de médailles du côté tricolore. Voilà, c'est quand même ça devrait être quelque chose d'assez exceptionnel. J'ai vécu les derniers en France de près puisque j'étais volontaire à Albertville en 92. Alors vous allez rigoler parce que j'étais sur le site du curling. Un sport qu'à l'époque je ne connaissais pas avant d'arriver au jeu et que j'ai appris à découvrir sur place. Un sport, alors pour le coup, très télégénique, Et une ambiance de folie pendant 15 jours sur le site du curling avec les champions à portée de main. Et même si ce n'était que les champions de curling, une sacrée quinzaine. J'étais toute jeunette et franchement, c'était quelque chose de super sympa. Alors en plus, j'avais un poste qui me permettait d'aller jusqu'à l'hôtel des athlètes. Donc... c'était assez chouette, après les journées de compétition, de les voir aussi dans des moments de fête, parce qu'il y a cet aspect-là, une fois que les médailles sont gagnées et que les matchs sont joués. Et puis, grâce à ça, ça m'a permis d'aller voir quelques compétitions, et notamment des médailles françaises sur le biathlon. C'était le début de ces médailles du biathlon national. Et franchement, ça a été des moments absolument fabuleux, jusqu'à la clôture, où tous les volontaires d'Albertville 92 était invité, et ça a été une soirée de folie. Donc voilà, moi, une grande, grande fierté, une grande joie de voir arriver ces Jeux en France. Et tant pis pour ceux à qui ça ne plairait pas. Moi, je ne vais pas bouder mon plaisir, et je me dis que peut-être presque 40 ans après, je m'interroge à être à nouveau volontaire.
L'image est aussi importante, justement, aux Jeux Olympiques. Il y a des photos qui ont fait l'histoire. Enfin, qui sont sortis des Jeux Olympiques,
sûr,
qui ont
sûr.
Fait l'histoire, là qu'on parlait de photos.
Exactement. C'est, de toute façon, là, pour les JO, maintenant, c'est un peu compliqué. Bon, il y a quelques années en arrière, disons que c'était, il fallait faire partie d'une agence, mais maintenant, il y a une agence, en fait, si vous voulez, qui a été choisie, et on ne peut pas se faire accréditer, c'est très, très, très compliqué. Donc, parce qu'il y a à peu près, je crois qu'il doit y avoir... une dizaine de photographes par pays, donc voilà quoi. Après, puis c'est vraiment, c'est une spécialité. Je veux dire, les photographes qui font ce genre, c'est comme les photographes de foot. C'est une spécialité. Moi, il m'est arrivé de faire des photos de foot. Je veux dire, bon, j'ai passé, ça dure une heure et demie, je crois, un match. J'ai mis trois photos avec le ballon dedans, quoi.
Il y a quelques sports extrêmes qui commencent à arriver aux Jeux Olympiques.
Ouais,
le BMX.
Oui, le BMX.
Je crois qu'il y a le skate. Ouais.
Il y a le skate qui, et je crois que normalement il y a le surf aussi. Ouais. Ouais, il y a la planche. Bon, mais la planche, ce côté-là, c'est pas la planche de vitesse, c'est pas la planche des vraiment extrême. Mais
c'est pas pour faire des figures.
Ouais, voilà. Et mais bon, moi je suis content parce que le surf, c'est quand même, c'est, je veux dire, en France, on a des spots de surf qui sont assez connus mondialement. Et je suis bien content. Et puis on a des bons aussi. Bon, maintenant je suis plus trop le parcours de certains, mais sur la côte basque, il y en a pas mal, et c'est vraiment, et le BMX c'est pareil, c'est bon, il y a le VTT, il y a tout ce qui découle de...
Mais c'est vrai que jusqu'à présent c'était surtout sur les JO d'hiver qu'on avait un peu de sport extrême.
Voilà, c'est ça, ouais. Et puis mais là c'est bien, hein, moi je suis aussi, c'est pareil, je suis bien content que ça se passe en France, parce que finalement, bon, de toute façon c'est sûr que ça coûtera de l'argent, mais bon, j'espère qu'on saura suffisamment, fait que nos politiques seront suffisamment intelligent pour savoir les recycler ces stades et ces
équipements
oui, qui vont être mis en place. Et puis de toute façon, il va falloir toute une infrastructure de pour les déplacements, pour tout ça. Et en fait, et puis si on regarde, je veux dire, bon, il va y avoir des sports qui vont être sur Marseille, il y en a sur Bordeaux, il y en a un peu de partout. Alors donc, moi je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et puis de toute façon, je veux dire, dépenser de l'argent dans ce sens-là, moi, je pense que c'est une bonne chose. D'abord, pour les gamins qui sont à l'affût de sports nouveaux et d'athlètes français, je veux dire, bon, c'est bien, non ?
Oui, moi, je suis d'accord. on verra peut-être tout à l'heure une réaction d'Eric avec le hashtag 2024.
Alors, je suis désolée, tu avais mis...
Et oui, c'était le hashtag 2024.
Ah, non,
il l'avait dit hier.
Vrai, hein, je suis désolée, vraiment, j'étais très mauvaise élève, donc carton rouge.
Allez, tout de suite après la virgule, c'est le nouveau moment, le nouveau rendez-vous de cette partie de ce Los Actuali, le portrait chinois.
Loz Actuali.
Alors, comme vous êtes deux, chers invités, on va faire alterner entre vous. Il y aura deux questions qu'on vous posera spécifiquement à tous les deux. Alors, on va commencer peut-être avec vous, Jean-Pierre Montiel. Un animal, si vous, vous dites animal, qu'est-ce que vous me répondez?
Chien.
Ouais. Pour accompagner le photographe sur, ouais. Sur ses balades dans la nature.
Ouais.
un loisir, le loisir du photographe.
La photo.
Pas d'autres loisirs.
C'est le VTT.
Ah ouais.
VTT, ouais.
Et c'est possible de prendre le. Oui, c'est pas trop dangereux de prendre le
non,
l'appareil
non,
photo.
Non, c'est pas compatible. Non, parce que d'abord c'est lourd, fragile. Quand on fait du VTT avec des copains et qu'on s'arrête pour faire une photo et qu'on les fait poireauter pendant une heure, on se fait insulter. Soi-même, on se stresse pour faire la photo vite. Alors du coup, voilà. Non, la photo. Non, soit on fait du VTT. Soit on fait la photo, voilà.
Jean-Pierre Montiel, un endroit préféré dans le monde?
Dans le monde? Oh, moi, je dirais la France. Hein. Ouais.
C'est un peu grand. Ou...
C'est grand, ouais, mais c'est tellement divers, il y a tellement de diversité dans ce pays que moi, je pense que c'est un pays où on aime bien revenir. Hein.
Maurice Hubervy, même question, où en France?
La Grèce.
Voilà, la Grèce.
Ah oui, moi, alors, ça où en Grèce? Parce que c'est pareil, c'est vaste.
Alors, ben partout. Hein, parce que qu'on aille dans les îles grecques, alors maintenant, malheureusement, le tourisme est en
ouais,
train
ça,
de
ouais.
tuer un peu la vraie originalité de la Grèce, qui, il y a 30 ans, était un pays qui était un peu déjà l'Orient. Ça, c'est fini. C'est vraiment l'Europe, maintenant, la Grèce, je dirais un peu malheureusement. Mais on peut aller aussi dans le Péloponnèse, par exemple, c'est beaucoup moins fréquenté et c'est toujours aussi génial, les gens sont adorables, il y a de la musique, les gens aiment la fête, il y a la mer, les bateaux, les bons petits restos, les tavernes, c'est le pays du bonheur, tout bête, quoi.
Vous remarquerez qu'on parle toujours autour du resto, de l'apéro, de la fête.
Les photographes sont des bons vivants, ça nous
alors,
plaît.
Justement, une drogue favorite, Jean-Pierre Montiel?
Drogue favorite, ben j'aime bien le vin, moi.
Un plat préféré pour Maurice
Hubervy?
Voilà. C'est bien, vous êtes dans le thème pour le roi, vous êtes impeccable. Un verbe ou un mot, Jean-Pierre Montiel?
Oh, là, vous me prenez au dépourvu. Oh, ben je dirais bien amour, moi.
Oui, c'est ça, aimer.
Et un héros de fiction?
Gaston Lagaffe.
Et alors pour terminer à tous les deux un rêve et peut-être le rêve de la photo idéale, qu'est-ce qu'elle représente cette photo idéale pour l'un et l'autre?
Celle qu'on vend très cher.
Eh oui.
Après la photo idéale c'est souvent celle qu'on a où on n'avait pas le matériel avec soi, voilà. Et où on a tout loupé. Alors on se dit, celle-là, c'est dommage, elle aurait été vraiment
ouais.
belle.
On n'avait pas l'objectif qui allait bien.
Voilà,
qui,
ouais, ouais,
voilà. Mais de toute façon, il y a toujours un moment de où tu t'aperçois, même en ayant tout sur le dos, moi j'ai connu ça parce que, quand suivant les endroits où tu vas, tu es obligé de tout amener, tu as 20 kilos sur le dos. Et puis bon, et le moment où il te faut tel objectif, et si tu ne l'as pas, ben voilà, tu es à côté.
Si vous deviez en garder qu'une photo que vous ayez faite ou que vous ayez vue.
Mais sachant qu'il va falloir que vous la racontiez à nos auditeurs.
Ouais. Hein, parce que... ouais. Je peux peut-être t'aider, Jean-Pierre, parce que tu m'en as raconté une l'année dernière de Reza, là, cette histoire des chaussures. Alors, c'est peut-être pas ouais. ta préférée, mais quand même, il y a une belle histoire à raconter.
Ouais, c'est une. En fait, c'est une histoire assez. Il faut savoir que Reza, donc, qui était grand reporter de guerre, a créé une fondation. Qui s'appelle Destin Croisé. Et en fait, il va dans des camps de réfugiés. Et maintenant, en fait, si vous voulez, ça a changé un peu de nom, ça s'appelle plutôt les ateliers de Reza. Il va dans des camps de réfugiés, alors en Afghanistan, en Syrie, il va un peu partout. Il amène du matériel, c'est-à-dire matériel photo et ordinateur. Et il forme les gamins de ce camp à faire leur propre reportage sur leur vie dans les camps. Et nous, on a la chance, justement, comme je connais bien Reza, d'avoir en exclusivité ces expos avant qu'elles soient diffusées ou qu'elles soient reparties sur la France. Et en fait, il y a une photo qui nous a vraiment émus l'année dernière.
Et Reza nous avait raconté un peu son histoire. En fait, c'est une paire de baskets qui est gelée. Et moi, j'ai un peu du mal à la raconter. Je te laisse la...
Oui, il y avait dans ce camp une gamine qui voulait absolument s'inscrire à ses cours. Et, alors que les inscriptions étaient finies. Enfin, et puis, donc, elle insistait beaucoup et tout. Et Reza finit par lui dire, bon, mais écoute... Ok, c'est bon, tu viens demain matin à 9h, tu viens, ça commence tous les matins à 9h, il faut que tu sois là. Et un matin, elle n'est pas venue. Et elle arrive sur le coup de 11h au midi. Et il lui dit, voilà, tu vois, je t'avais dit, il fallait être là à 9h et tout ça. Et voilà, tu vois, on ne peut pas... Oui, mais elle dit, mais je n'ai pas pu venir et tout. Et elle montre son appareil photo avec l'écran, et elle montre, elle dit, regarde, mes chaussures, elles étaient gelées. Et voilà. Et l'histoire de cette image faite par une enfant d'un camp de réfugiés. Voilà. Ouais. Et j'ajouterais, Reza, il dit quelque chose. Il est d'origine iranienne.
C'est franco-iranien.
Ouais. Ouais. Et quand il était jeune, à l'âge de 11 ans, il s'est intéressé à la photographie. Et il s'est dit, la photographie, c'est un langage universel. C'est quelque chose que... on peut faire comprendre sur toute la planète.
Voilà. Alors, un autre langage qui se comprend aussi, hein, c'est celui de la musique. Alors peut-être parfois on ne comprend pas forcément les paroles, mais en tous les cas, la musique peut nous parler. Et donc, c'est le moment de la deuxième coupure musicale, et c'est le choix de Maurice Subervi.
Alors c'est Diana Krall, et le titre du morceau c'est « I love to be here with you ». Je suis heureuse d'être là parmi vous, ça tombe très bien. Voilà, et moi j'adore le jazz, le piano, les voix. Et là, c'est un mélange réussi des trois.
On écoute.
North and South, they're both the best, but I only love to go there as a guest, cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, I love the rocks, and what is more, with you there'd never be a bore, cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, love is such a crazy game, love all kinds of weather as long as we're together. I love to hear you say my name. I love good wine, fine cuisine, candlelight, I love the scene, but baby, if you know just what I mean, love being here with you. Thank you.
for something else, you know. They knew how to play, they knew it safe. They just wound up, let it go. I love a thrill, a Paris show. I love to kiss you on your nose. Just let me say before I close, I love being here with you.
Loz Actualité.
Troisième partie de notre émission avec Jean-Pierre Montiel et Maurice Tuberville de Photobrac. Voilà, on a parlé d'images, vous l'avez entendu tout au long de cette émission. Et viennent les moments un petit peu plus tôt tournés autour de l'actualité nationale et internationale. Et on commence d'abord avec la rubrique hashtag. Alors, les hashtags de la semaine en Lozère. Je vous ai retenu le hashtag apprentissage, puisque il y a eu pas mal d'actualités, Caroline, autour de l'apprentissage ces derniers jours, hein, avec la sélection pour les meilleurs apprentis de France, le départ du directeur du CFA, le lancement aussi de la rentrée. Au CFA.
Avec
donc,
la remise des prix des meilleurs apprentis dans trois domaines.
Voilà, donc c'est effectivement, on retrouve ce hashtag apprentissage. Il y a la rentrée universitaire aussi qui s'est fait cette semaine, avec notamment l'Institut du tourisme d'Orfeuillette qui a repris. Et puis également le hashtag pompier, puisqu'il y a eu ce week-end, différentes manifestations autour
des... Le rassemblement des pupilles des pompiers, voilà. Notamment dans le Val d'Aunès.
Voilà, c'est mieux. Pour l'actualité locale, il vaut mieux s'adresser à Caroline, celle qui maîtrise un peu plus les choses. Le hashtag de la semaine nationale et internationale, alors plutôt quand même assez national, c'est le hashtag JEP, comme Journée Européenne du Patrimoine. Il y a eu beaucoup de choses ce week-end autour de tout ça. Et moi, je fais un petit coucou à Caroline Bidot qui a fait une proposition très sympathique à Javol avec là aussi de l'image en réalité augmentée dans un casque pour pouvoir visualiser un site, le site de Javol dans son environnement tel qu'il était dans les années 150 après Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez sympathique de se balader, s'arrêter à un endroit au milieu d'un pré et de tourner la tête et de voir un petit peu ce que pouvait être le rendu. Donc à découvrir à Javol. Alors pour l'instant, c'était vraiment quelque chose d'un peu inédit pour les Journées du Patrimoine, mais ça va être développé dans les prochaines semaines. Donc voilà, je pense qu'on pourra peut-être recevoir Caroline pour qu'elle nous en parle dans une future émission. Voilà pour les hashtags de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez des compléments à faire.
Et pas hashtag couscous ?
Non, pas c'était aujourd'hui, hein, le couscous, je crois.
Et pas hashtag cyclone ?
Eh bien, très récemment aussi, effectivement. Mais enfin, voilà. Moi, je vous en ai déjà pris les derniers que j'avais. Je fais une sélection aussi, hein, parce que voilà, les top tweets sont pas toujours, évoluent forcément d'heure en heure. Voilà.
Tu parlais d'un hashtag apprentissage pour la photo, on apprend sur le terrain.
Il y a des écoles de photo, de toute façon, ça c'est clair. Mais je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de regarder et c'est sur le terrain, de toute façon, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas évident parce que, quand j'étais en activité, si vous voulez, le truc, c'était d'emmener quelqu'un avec soi. En général, les frais sont pris en charge pour une seule personne. Donc, à partir du moment où tu amènes quelqu'un, c'est à ta charge, quoi, en fait. Mais il est vrai. Et puis, le problème aussi, il est le matériel. Bon, le matériel a bien évolué maintenant, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il faut savoir se lâcher. Il faut savoir parler de soi, c'est pas vrai. Mais il faut savoir montrer son travail et ne pas avoir peur de se cacher derrière. Mais il faut surtout pas se prendre la tête. Et puis, je veux dire, garder les pieds sur terre. Et l'humilité, c'est important dans la photo. Et moi, j'avais mon mentor qui m'a appris la photo. Il me disait, la photo, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Voilà.
Bon, ben voilà, sur cette belle pensée, on va mettre une petite virgule et on se retrouve pour la revue de presse.
Loz Actuali.
Allez, on commence cette revue de presse avec Eric et on reste sur 2024.
C'était pareil, oui, c'était comme ce que Caro nous a dit. Donc voilà, c'était juste par rapport à l'attribution des JO. Et moi aussi, je suis un grand fan de sport en général, de certains sports surtout en particulier. Et je suis quand même assez ravi de pouvoir les avoir en France. Ouais. Je trouve ça très bien.
Caroline, ton hashtag ?
Alors donc c'était un hashtag droit de suite. Je vous avais parlé il y a 15 jours de la Birmanie et du massacre des Rohingyas en Birmanie. Donc les choses ont bougé depuis, hein, puisque Aung San Suu Kyi, qui est actuellement prise en étau par des reproches très sévères de la communauté internationale et qui jusqu'à maintenant a plutôt défendu la position de la population birmane, qui est très raciste envers les musulmans, devrait s'exprimer demain normalement à l'ONU. Alors elle devra pas, elle ira pas. Il y a eu un peu controverse tout le week-end.
Elle devait faire un message vidéo.
Et il semble, c'est un article du Point d'il y a 6 heures, qu'elle sera sur place demain. Alors voilà, à suivre. En tout cas, je voulais apporter ce droit de suite et préciser, on l'avait déjà dit il y a 15 jours, mais que voilà, pour la prix Nobel qu'on a pu porter à un moment au pinacle et qui là semblait un peu tomber de son piédestal, les choses sont quand même très très compliquées actuellement. En tout cas, l'ONU parle quand même d'un massacre et d'une épuration ethnique désormais. Quoi. Les choses se précisent.
Bien, ben on publiera cet article tout aussi, Caroline, sur le Facebook de l'émission. Moi, je voulais vous faire un hashtag radio avec un article de Slate.fr sur FIP. Alors, un article très, très sympa à relire. Alors, vous savez peut-être que le fondateur américain de Twitter a récemment déclaré son amour à FIP déclarant que « Always perfectly tuned in », best radio in the world ». Donc, du fondateur de Twitter. Donc, une radio qui en fait veut dire FIP, c'est France Inter Paris, une radio qui base surtout sa programmation sur de la musique avec quelques interventions de voix à peu près toutes les trois chansons. Une radio qui fonctionne avec que sur les zones urbaines, finalement, pas sur les zones rurales comme chez nous, mais une radio aussi qui a été, et c'est assez bizarre, qui a été diffusé dans certains pays étrangers et dans certaines régions par des gens en pirate. Notamment à Brighton, dans le sud de l'Angleterre. Vous pourrez découvrir cet article qui est vraiment très, très sympa, qui évoque aussi les réductions un peu d'effectifs au sein de la station et la disparition, notamment le non-renouvellement de certaines animatrices qui étaient positionnées en région et qui faisaient cet agenda culturel aussi une des forces de FIP. Donc c'était un petit clin d'œil confraternel, une grande sœur, on peut le dire comme ça. Et puis dire que également les radios associatives sont actuellement mobilisées pour la défense des emplois aidés, puisque c'est aussi une façon de soutenir nos médias associatifs que d'avoir au sein de nos radios des emplois aidés. Donc l'Assemblée régionale des radios associatives a publié un communiqué la semaine dernière pour rappeler l'importance, ces 20% des emplois qui sont aujourd'hui en contrat à durée déterminée ou en contrat aidé. Ça veut dire qu'il y a quand même 80% des postes qui sont des postes pérennisés, des postes stables, mais 20% c'est aussi des projets, des développements qui sont permis dans les radios. Et donc ça, c'était un élément aussi sur lequel on voulait faire un petit clin d'œil pour terminer cette émission.
On avait dit qu'il y avait encore une dernière rubrique, peut-être c'était la question qu'on a oublié de poser.
C'est ça, tout à fait.
Est-ce que vous avez un mot que vous voudriez rajouter, un petit mot que vous voudriez rajouter ?
Merci de nous avoir invités.
Exactement.
Et tous à Nas Binal ce week-end.
Ouais, voilà.
Voilà, exactement.
Voilà, à partir donc, on le rappelle, du 21 au 24 septembre, des expos, des projections, des concours, voilà, plein d'activités.
Des casse-croûtes et des apéros.
Voilà. Voilà, voilà. Merci Caroline de le rappeler.
Pour les apéros.
Alors avec les JA de Nas Binal, c'est pas toujours sûr, hein.
Voilà.
On veille.
On vous rappelle les rediffusions de cette émission le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur la page Facebook de Los Actuali, sur la page Twitter également. Et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Qu'est-ce que
pour
ça sera
un
au
rendez-vous
programme
gourmand, a priori.
Ah, oui, on va parler de. On va rester dans la gourmandise, peut-être, je pense. Avec effectivement plusieurs choses autour de la cuisine des champignons, de l'automne, tout ça. Enfin, voilà, ça. L'automne qui est bien arrivé quand même.
Oui.
Bien, bon, tous les cas, on vous souhaite une très bonne quinzaine. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Loz Actualité.